Bonjour à tous. Je remercie bien évidemment les organisateurs de cet événement qui, somme toute, m'intéresse énormément. Donc, vous l'avez dit, je m'appelle Marie Lefel, je suis docteur en sciences du langage et professeure contractuelle au sein du Master FLE à l'Université d'Artois. Et je souhaiterais aborder aujourd'hui avec vous et faire un parallèle entre les objets de l'incontinence, les professionnels de l'aide et du soin et les représentations dans les médias. Alors déjà, je souhaiterais partir d'un constat, on en a parlé un peu ce matin et c'est une réalité qui s'impose à nous. Il y aura en France, à cause du vieillissement général de la population, de plus en plus de personnes âgées dépendantes. Donc, selon Christophe Trival, gérontologue, au 1er janvier 2012, en France métropolitaine, 1,17 million de personnes âgées étaient dépendantes. À l'horizon 2060, selon le scénario intermédiaire des projections de dépendance, ce nombre de personnes âgées dépendantes atteindrait 2,3 millions. Il faudra donc autant de professionnels de l'aide et du soin, ou du care, on entend ça aussi, pour en prendre soin, qu'il s'agisse d'aide-soignants, d'auxiliaires de vie ou encore d'aide médico-psychologique, par exemple. Or, c'est dans le cadre de ce besoin croissant que les diverses politiques de recrutement, depuis plusieurs années, s'intéressent à l'intégration de personnes migrantes ou issues de l'immigration. C'est ce que vient confirmer l'extrait présenté dans la présentation. Donc, un article qui s'adresse à l'intégration de personnes migrantes, donc miser sur les secteurs professionnels qui recrutent. Autant d'obstacles pour les réfugiés qui viennent s'ajouter à la situation difficile de l'emploi en France, qui a l'un des plus forts taux de chômage de l'Union européenne, donc 8,7% en avril 2019, encourageant d'autant plus les réfugiés à accepter ce qu'ils trouvent, le plus souvent donc dans un métier et dans un secteur dit en tension. Donc il y a la restauration, le bâtiment, l'agriculture et évidemment l'aide à la personne, puisque ces domaines offrent des emplois en France. Donc, le laboratoire auquel je fais partie, le laboratoire Grammatica, s'oriente depuis plusieurs années maintenant vers la création de référentiels de compétences langagières. Donc, il existe à ce jour, comme on l'a dit, des référentiels de compétences pour les professions dites en tension, où les besoins personnels ne sont pas satisfaits. Hein, c'est le cas notamment de l'hôtellerie-restauration, du TP, de l'hygiène et propreté, et donc bientôt de l'aide à la personne. Bon, je vais passer assez rapidement sur ces référentiels, j'y reviendrai en conclusion de mon intervention. Ces référentiels, ils permettent de fournir des supports aux instituts de formation et à la recherche, puisqu'ils sont composés de données brutes sous la forme de vidéos et d'audio transcrits, parfois avec quelques propositions de didactisation. Cet outil, il se révèle être le référentiel se révèle être un outil précieux pour les instituts de formation et les chercheurs, hein, puisqu'il fournit des données brutes prises en contexte qui correspondent à une véritable pratique de travail. Alors, pour le domaine de l'aide à la personne, les données dont je me servirai aujourd'hui pour ma communication ont été enregistrées sous la forme d'audio et de vidéo. Elles ont été captées, ces données, au sein d'un institut de formation. Donc, c'est le lycée Joliot-Curie et sa filière ASSP, Accompagnement, Soins et Services à la Personne, donc qui forment les futurs professionnels de l'aide et du soin, ainsi qu'au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, un EHPAD, qui appartient à une association privée à but non lucratif, qui se nomme La Vie Active, et qui est une grosse association qui possède plusieurs établissements, dizaines d'établissements, à vrai dire, en France. Alors, je souhaitais revenir rapidement sur finalement ce qu'est l'aide et pourquoi, en ce qui concerne les domaines particuliers de l'aide à la personne envers les personnes âgées, il s'agit d'une aide plurielle. Déjà, plusieurs paramètres ont dû être pris en compte pour la création de ce référentiel. Ces paramètres se distinguaient par ailleurs de ce qui avait été précédemment créé pour les différents référentiels. Donc, il s'agit de caractère polysémique de l'aide et de l'influence des représentations culturelles liées à la vieillesse et aux personnes âgées sur l'aide fournie par les professionnels. Donc, cette aide, elle est plurielle puisqu'elle prend de multiples formes. Un professionnel peut à la fois faciliter l'interaction avec une personne qui présente des troubles du langage, c'est la récurrence de la maladie d'Alzheimer en EHPAD, en utilisant notamment la répétition, la modulation de la voix ou encore l'utilisation du prénom, tout comme remplacer les gestes de la personne âgée au sein d'une aide au repas, par exemple. Donc, ce caractère humain et de dépendance que revêt la pratique influence le comportement du professionnel, rarement prévisible finalement, et toujours adaptatif en fonction des événements qui se présentent à lui. Donc, ce caractère adaptatif et pluriel de l'aide s'applique également au langage des professionnels qui non seulement se modifie drastiquement en fonction de l'interlocuteur en présence, mais n'est pas toujours stabilisé, nous le verrons, au niveau de la désignation des objets du soin. Donc, ce langage de professionnel change en fonction de l'interlocuteur et les apprentis, dès la formation, sont invités à modifier le vocabulaire en fonction du destinataire, comme vous pourrez le voir dans la vidéo ci-dessous. Alors, elle ne dure pas trop longtemps.
Dans la vidéo, on vous dit que cette technique, il est préférable qu'elle soit réalisée comment ? À la fin de la vidéo. À deux, pour plus de sécurité. Alors, je demande à un élève volontaire de venir la réaliser avec moi. Allez, Mandy. Alors, mon petit chevet, il va me caler par là. Première chose, quand on rentre dans la chambre du patient, qu'est-ce qu'on dit ? Mandy, vas-y, t'es là. Madame Luc, on peut l'appeler madame. On va changer vos draps, réfection du lit. La personne. Je ne sais pas trop ce que c'est, ça, c'est vous qui avez en tête cette technique-là. Mais la personne âgée, un monsieur, voilà, enfin madame, on va dire dans la situation de vos draps, ils sont souillés, on va les changer, on va changer vos draps. C'est plus simple que dire on va faire la réflexion. Même si dans ta tête, c'est ça que tu as. Alors après, qu'est-ce que tu fais ?
Alors, dans cet extrait, vous voyez que la professeure apprend à l'élève à moduler son discours en fonction de l'interlocuteur. Donc, réflexion de lit pour le professionnel dans sa pratique. Et changer les draps, expression issue de la langue générale, pour interagir avec la personne âgée. On observera ainsi l'apparition de lexique spécialisé, c'est-à-dire un lexique spécifique au professionnel qui s'emploie dans un cadre où le professionnel est en interaction avec un autre professionnel et ou en réflexion personnelle, c'est ce que suggère la formatrice dans cet extrait, dès lors qu'il verbalise évidemment cette réflexion. Je souhaiterais aborder avec vous un phénomène qui se produit fréquemment finalement et de manière assez inattendue. Enfin, moi, je ne m'y attendais pas forcément en étudiant mon corpus. C'est le phénomène qui s'intitule la lexicalisation. Donc, c'est un processus par lequel un mot acquiert un sens conceptuel. Donc, c'est le cas des noms de marque qui finissent par indiquer une classe d'objets et non seulement l'instance portant le nom de la marque. Donc, ce nom propre, en fait, finit par désigner toute une classe référentielle et se charge d'une signification. Donc, la transformation catégorielle du nom propre au commun entraîne ainsi un changement conceptuel. Alors, je voulais aborder ce phénomène qui, évidemment, est surgi dans le langage du professionnel, mais plus spécifiquement dans les interactions interprofessionnelles. Donc, pour prendre le cas de la langue générale, pour qu'on se repère peut-être un petit peu plus, c'est par exemple le cas de la marque Sopalin. Quand vous dites « passe-moi un Sopalin », généralement, on sait que ça fait référence à un essuie-tout. Ou alors un Kleenex, pareil, pour un mouchoir. J'ai pris ces exemples-là, mais il y en a d'autres, hein, iPhone notamment. Alors, la formation proposée aux futurs professionnels de l'aide et du soin, on va déjà commencer par une première distinction en ce qui concerne la désignation de ces objets de l'incontinence. Donc, cette formation qui est proposée aux futurs professionnels de l'aide et du soin, comme on a pu le voir dans l'extrait, il faut savoir qu'elle n'est pas uniquement destinée aux personnes âgées. Donc, les apprentis sont préparés à s'occuper de différents types de publics, dont des enfants et des adultes handicapés. Or, déjà, une des premières choses qui est signalée dans le cadre de la formation, c'est que cet objet de l'incontinence va subir une modification en fonction du public d'aider. On évitera ainsi la désignation de la protection pour adultes par le mot « couche », qui fait trop référence au monde de l'enfance. Donc, la professeure dit bah, tant mieux, si vous ne l'avez pas vu, c'est tant mieux, mais quand on change une protection, on lave la personne. Donc, quand on dit on change l'adulte, bah, c'est comme le change d'un bébé, c'est pareil, on va changer sa protection, pas sa couche, sa protection. Donc, elle insiste bien là-dessus. Donc, dans cet extrait, alors, la professeure souligne que le mot couche n'est pas approprié pour faire référence à l'objet utilisé durant le change de l'adulte. Dans ce cas, ce sera le mot protection qui sera préféré, même si on verra qu'il y en a bien d'autres. Et ce, même si les objets, dans les faits, possèdent la même fonction. Alors, parmi le matériel en cas d'incontinence dans la pratique réelle, nous retrouvons des références aux protections pour l'adulte. Donc là, on passe vraiment dans la pratique, comme le change, un change de nuit, un pense, un pull-ups, une culotte absorbante, un flex bleu, un flex mauve, un change bleu, un change mauve. Alors, parfois, les professionnels savent à quoi font référence les couleurs et ils ne mentionnent pas l'objet auquel ils font référence, mais juste les couleurs, c'est-à-dire qu'il ne reste plus qu'en fait un bleu et un mauve, comme dans l'extrait qui est présenté. Vous voyez ici dans l'extrait, alors c'est du langage parlé, hein, c'est pour ça que ce n'est pas très joli, mais du coup, c'est extrait de mon corpus. Donc là, on lui a remis un bleu, donc c'est cet extrait de transmission orale de professionnel. Alors, ces références aux marques, donc cette lexicalisation, sont très présentes au sein de la pratique réelle. C'est par exemple donc le cas, ici on l'a cité déjà auparavant, de pull-ups, pants et flex, qui renvoient tous à des marques. Donc là, on a un extrait d'une interaction entre plusieurs professionnels où elle mentionne un flex bleu, un flex mauve, son pants. Donc dans une transmission, on peut trouver tout à la fois différents noms de marques. Donc, petit aparté, pull-ups, c'est une référence au départ pour les couches pour bébé et c'est une marque commerciale de la compagnie Huggies. Pants et Flex, quant à eux, renvoient à des gammes de change adultes de la marque Tena. Donc, nous pourrions dire que tout comme la marque Sopalin est utilisée pour faire référence à l'objet, c'est-à-dire à l'essuie-tout dans la langue générale, le nom des marques se lexicalise chez le professionnel, marquant parfois une indécision dans la désignation de l'objet. Donc, si certains noms désignent le même objet, c'est notamment le cas de Pants et Flex, il ne s'agit pas toujours d'une indécision. Ainsi, hein, le pull-ups, lui, s'enfile comme une culotte. Donc, il y a des différences dans ces objets. Donc, ça explique une partie des hésitations. Ce qui n'est pas, par exemple, le cas du flex qui s'adapte à la personne. Vous voyez là sur l'image. Donc, je souhaiterais faire un parallèle avant de regarder un petit peu ce qui se passe dans les médias et peut-être expliquer un petit peu cette indécision des professionnels. Donc, effectivement, faire un lien entre l'incontinence et le sujet âgé. Hein, l'incontinence, déjà, elle fait partie intégrante du quotidien des professionnels de l'aide et du soin, de par sa prévalence si le sujet âgé est dépendant. Hein, 10% des sujets après 70 ans ont une incontinence urinaire et cette prévalence atteint 25% après 85 ans. Or, évidemment, ces conséquences de l'incontinence sont souvent gérées par les professionnels du soin et de l'aide, d'autant plus si celle-ci est associée à une altération de l'autonomie du sujet âgé, ce qui est souvent le cas dans un EHPAD. Alors, avant de finalement regarder un petit peu ce qui se disait sur l'incontinence, les protections dans les médias, etc., j'aurais aimé finalement faire un parallèle et revenir sur ce que les personnes âgées pensent en fait d'elles-mêmes. C'est que c'est une question qui se pose assez rarement et une des raisons finalement à cette indécision pourrait trouver ses racines dans les représentations culturelles liées à la vieillesse et aux personnes âgées. Donc, Patrick Legros, lui, il était dans des établissements accueillant des personnes âgées, donc vraisemblablement des établissements type EHPAD, et il constate que tous les entretiens recensent cette même volonté de déni de cette vieillesse devenue socialement stigmatisante. À la question « Est-ce que vous pouvez me décrire une personne âgée ?», 90% des personnes interrogées ont répondu, mais sans s'impliquer dans cette catégorie. Il s'agit à la fois d'un voisin, d'un parent, d'une caricature. Ou alors, l'interviewé va chercher à élire la question en sollicitant sa reformulation. Donc, évidemment, si les personnes âgées n'admettent pas qu'elles font partie de cette catégorie, c'est qu'il doit y avoir un problème de représentation. On insiste un petit peu depuis ce matin dessus. Des personnes âgées, vieillesse en France. Je souhaitais aussi mentionner cette anecdote qui me semblait intéressante. Et qui fait un lien finalement entre la représentation des personnes âgées et les médias. Donc, c'est toujours extrait du livre de Yannick Sauveur. Dans le domaine de la publicité, on n'utilisera jamais une personne âgée non aseptisée au regard, au visage ridé, à la silhouette déformée. Il ne faut en aucun cas rappeler aux gens du troisième âge qu'ils sont vieux. La société Heinz-Simcom l'a appris à ses dépens. Il y a découvert que beaucoup de consommateurs âgés achetaient l'alimentation pour bébé. donc purée, légumes, etc. Elle décida de faire un conditionnement spécial troisième âge, tout en conservant dans ses boîtes les produits offerts au bébé. Cette nouvelle gamme s'appelait Senior Food. Ce fut un échec total. Aucune boîte ne se vendit. Par contre, les aliments pour bébé continuèrent à attirer les personnes âgées. Donc, on peut déjà partir un petit peu de ce constat et dire que avant même que je vous montre une publicité pour des protections urinaires pour hommes, les médias tentent à ne pas montrer des représentations fidèles de la vieillesse et de personnes âgées. Ils choisissent quand même délibérément, parce que ça ne fonctionne pas sur le plan commercial, d'ignorer ce genre de représentation. Les produits dont le marketing s'oriente vers la vieillesse et les personnes âgées ne fonctionnent pas. Et donc, je vous propose maintenant de regarder une vidéo pour des protections adultes pour hommes, que je trouve assez accablante, mais je vous laisse juger.
Je suis un homme d'un certain âge et je contrôle tous les aspects de ma vie. Regardez. Jack. Tout le temps. Vous avez l'habitude d'avoir le contrôle, rien ne peut vous l'enlever, et certainement pas de simples fuites urinaires. Ténamène, des protections discrètes pour garder le contrôle. Ténamène, un dispositif médical.
Voilà. Des marques comme Téna pour le marketing des protections urinaires pour adultes utilisent donc des individus plutôt dans la quarantaine, voire cinquantaine, mais je crois que le monsieur a été grimé plutôt qu'autre chose. On remarque évidemment un individu assez caricatural, mais plutôt sportif et actif pour représenter les consommateurs de ce type de produit. Donc, l'incontinence urinaire pour les produits dans les publicités de la marque Téna n'est ni synonyme de sédentarité, ni d'ailleurs véritablement de vieillesse à proprement parler. C'est la même chose pour les femmes, mais je préférais vous montrer choisir une des pubs et pas vous montrer les deux. Alors, par contre, évidemment, cette gamme Téna, elle est plus large que ce que la pub suggère. Il y a évidemment des protections plus complètes, sauf que celle-là ne possède pas de marketing avec des acteurs comme pour les protections urinaires plus légères, dirons-nous. Le seul marketing présent sur la page YouTube de la marque pour cette gamme de produits se présente sous la forme de vidéos illustrant la pose de ce genre de protection. Ce type de produit, par ailleurs, ne bénéficie pas de la diffusion médiatique comme les protections plus légères pour adultes mentionnées précédemment. Pour ce genre de produit, les visages d'ailleurs disparaissent des vidéos de la marque. On montre simplement une procédure pour la mise en place du produit sur un individu qui est quelque peu déshumanisé, puisqu'inidentifiable tant par l'âge que par le genre. Alors, je tiens un petit peu à nuancer ce qui a été dit auparavant et peut-être un parallèle qui peut sembler un peu forcé et peut-être nuancer un petit peu ma conclusion. Donc, faire un parallèle entre les représentations culturelles qui existent en France et l'indécision pour nommer l'objet de l'incontinence pourrait sembler un peu forcé, je le concède. Pourtant, il a déjà été fait un lien entre des facteurs socioculturels et le comportement des individus envers les personnes âgées. C'est du moins ce que sous-entend l'OMS concernant la problématique grave de la maltraitance. Donc, cette maltraitance, elle, envers les personnes âgées, naît entre autres de représentations négatives. Il reste assez inédit de faire un parallèle entre les représentations culturelles liées à la vieillesse et une instabilité du lexique pour se référer à des objets extrêmement symboliques de la dépendance et de la perte d'autonomie, donc les protections pour adultes. Je tiens à signaler tout de même que ces sécrétions corporelles, elles restent taboues dans nos sociétés modernes. Jusqu'il y a peu encore, le sang des règles des femmes était représenté par un liquide bleu dans les publicités pour les protections hygiéniques. C'est toutefois en train de changer progressivement. Or, dans le cas de l'incontinence, elle reste synonyme d'une perte d'autonomie, du contrôle du corps, stigmatisée puisque souvent associée à la vieillesse. L'indécision des professionnels pourrait donc provenir en partie des représentations culturelles liées à la vieillesse et une stratégie d'évitement. Il demeure cependant étonnant de constater que la prévalence de l'incontinence dans le quotidien des professionnels ne supprime pas cette indécision apparente et cristallise la désignation des objets par des lexèmes stables. On pourrait penser que cette incontinence faisant partie intégrante de la pratique, les tabous soient amenés à disparaître, mais c'est sans doute oublier qu'il est nourri également par les personnes âgées elles-mêmes qui, on l'a vu, rencontrent des difficultés à se reconnaître dans cette catégorie, quand bien même ils se retrouvent dans des établissements spécialisés. On pourrait signaler malgré tout que cette indécision apparente n'empêche jamais les professionnels de mentionner l'objet de l'incontinence dans le cadre de leur pratique. Par ailleurs, malgré les multiples noms pour y faire référence, tous les professionnels les comprennent. Il s'agirait en ce sens, sous couvert de multiples noms pour désigner un seul objet, d'adresse indirecte, mais qui n'occulte jamais la réalité de leur utilisation. On pourrait en revanche attribuer les indécisions des professionnels en ce qui concerne les objets de l'incontinence aux représentations culturelles liées à la vieillesse seule. Si le lien entre la lexicalisation, la désignation par des noms de marques, je le rappelle, et les représentations culturelles demeure intéressant à mettre en perspective, il n'empêche que pour le cas particulier de la protection pour adultes, d'autres facteurs éclaircissent également cette indécision. Les différents noms de marques utilisés pour faire référence à l'objet de l'incontinence s'expliquent aussi également sans doute par les habitudes d'achat de l'EHPAD. Donc les professionnels nommeraient la protection pour adultes par la marque ou les marques qu'ils ont l'habitude d'utiliser par association directe de pensée. L'hésitation pour faire référence à l'objet pour ainsi provenir des différents achats. Hein. Il existe en outre des différences, on l'a nommé tout à l'heure, entre la couleur. La couleur en fait indique le degré d'absorption des protections. Il est dans ce cas logique que les professionnels précisent l'objet en fonction de la situation. Alors, si les représentations culturelles liées à la vieillesse aux personnes âgées semblent une explication tentante pour l'indécision des professionnels autour de la désignation de certains objets de l'incontinence, elle ne saura elle seule être complète. J'ai envie de dire, ce qui demeure ici surtout intéressant à creuser, c'est l'impact des représentations culturelles sur le comportement des professionnels de l'aide et du soin. Donc, pour revenir un petit peu et peut-être terminer cette communication, dans le cadre de la création d'un référentiel de compétences langagières, il faudra ainsi veiller à ce que s'opère en parallèle d'une formation aux compétences langagières, un processus d'acculturation aux représentations culturelles qui influencent et parfois rendent instable la pratique dans des proportions plus ou moins variées. La capacité de réflexivité du professionnel devra être également stimulée, qui devra comprendre quelles représentations culturelles sont préjudiciables à la pratique, par exemple les représentations négatives qui mènent à la maltraitance et révèlent une malpratique, et quelles sont les représentations qui influencent l'exercice professionnel en étant plutôt neutre. Les tabous et l'adresse indirecte dans les communications interprofessionnelles ou indispensables, c'est par exemple le cas de l'intégration du concept de pudeur dans les soins de la personne âgée. Je vous remercie de votre attention.